Louis Dubois, notice sur la Marseillaise. Cet hymne patriotique, dont la glorieuse réputation s'est accrue avec celle de la Révolution et de la liberté qu'il inspirèrent, a été l'objet de quelques notices qui n'ont pas augmenté sa juste célébrité, mais ont multiplié les erreurs sur son origine et son histoire. C'est à le tort, entre plusieurs autres écrivains, de ceux de nos auteurs les plus distingués, Madame Aimable Taste et M. Lamartine, dans l'histoire des Girondins. Comme j'ai connu particulièrement l'auteur du Chant des combats, que l'on désigne généralement sous le nom de la Marseillaise, et que j'ai fait une étude approfondie de nos révolutions, même dans leurs détails et leurs anecdotes, je crois pouvoir, mieux que mes prédécesseurs, faire connaître l'œuvre de Rouget de Lisle, et même en donner un texte plus correct que celui des innombrables réimpressions dont il a été l'objet et la victime. Ce chant de guerre, si approprié au caractère français et aux circonstances politiques de 1792, cet hymne patriotique eut l'honneur de continuer comme les hommes de Tirté à la gloire de la patrie et au triomphe de la liberté. La Marseillaise avait été créée et connue d'abord sous le nom de Chant de guerre, puis de Chant des combats au mois d'avril 1792 à Strasbourg, où, jeune officier du génie, se trouvait alors en garnison ce modeste auteur Joseph Rouget de Lisle, né à Lons-le-Saunier le 10 mai 1760. Rouget de Lisle assistait à un dîner chez l'ex-baron de Dietrich, maire de Strasbourg, savant distingué, qui tenait un bon état de maison et fut en 1794 l'un des plus regrettables victimes du régime de la Terreur. On venait de recevoir la déclaration de guerre faite par la France à l'Autriche le 29 avril 1792. Nos jeunes et brillants volontaires attendaient avec impatience pour répondre dignement aux outrageantes rodomontades des émigrés insultant de l'autre bout du Rhin les défenseurs de la patrie. Les convives de Dietrich invitèrent Rouget de Lisle à composer une chanson de guerre sur la circonstance où la France se trouvait. Sans retard, paroles et musiques telles que nous les connaissons jaillirent improvisées de la verve patriotique du poète-compositeur. Dans les éditions à deux liards qui furent si répandues pendant l'été 1792, cette magnifique improvisation fut intitulée d'abord « Chant de guerre de l'armée du Rhin » par Rouget. Alors, d'un bout à l'autre du royaume, les militaires surtout commencèrent à la chanter. Elle n'entra à Paris qu'à l'époque de la chute du trône le 10 août, et comme les Marseillais accourus en armes dans la capitale pour y contribuer à mettre un terme aux trahisons de la cour, chantaient avec une admirable expression le chant des combats dont le titre n'était pas connu, les Parisiens l'appelèrent l'hymne des Marseillais, la chanson marseillaise, et pour abréger la Marseillaise. De ce moment, elle devint tout à fait populaire, surtout quand, quelques jours après le 10 août, les commissaires de l'Assemblée législative et les envoyés de la Commune de Paris coururent dans les départements appelés aux armes et aux offrandes des citoyens qui se présentaient sur les places publiques et qui, enroulés spontanément, volèrent aussitôt sur les pas des premiers bataillons de volontaires vers nos frontières, déjà envahi après la prise rapide de Longwy et de Verdun. Dans le feu de la composition, il échappa à l'auteur une notable faute de versification qui a été presque toujours répétée dans les nombreuses réimpressions de son hymne. Cette faute gâta le dernier vers du sixième couplet, l'invocation de la liberté. En effet, on y lit « Que tes ennemis expirants volent, voient, ton triomphe et notre gloire. » La correction que Rouget de Lisle adopta depuis, sur la remarque que je lui fis, a le double avantage de l'exactitude poétique et du mouvement du vif donné à l'expression de la pensée. La voici, dans les ennemis expirants, vois ton triomphe et notre gloire. Cette rectification valait mieux que le changement suivant qu'il avait fait lorsqu'il s'était aperçu de la faute de versification dont il s'agit. Que tous les trônes des tyrans tombent au rayon de la gloire. Vers la fin de 1792, le 5 décembre, à la Société des Jacobins, où triomphaient depuis plus de 6 mois les ennemis de Lafayette et de la modération, un membre nommé Boissel proposa et fit adopter ce changement vers 5 et 6 de la cinquième strophe. Frappez ces monstres sanguinaires, ces vils complices de Motier. Motier, gravement, on sait, était le nom de famille du général Lafayette. Le bon sens public rejeta cette variante ridicule et subreptice. Au mois d'octobre 1702, j'ajoutai un 7e couplet qui fut bien accueilli dans les journaux. C'est le couplet des enfants, dont l'idée est empruntée au chant des Spartiates rapporté par Plutarque. Une autre addition, moins connue et pourtant attribuée à Collet d'Orbois, parut en 1794 à Lyon. Comme cette strophe était très peu répandue, je vais la reproduire ici. À l'arbre de la liberté. Arbre chéri, deviens le gage de notre espoir et de nos vœux. Puisses-tu fleurir d'âge en âge et couvrir nos derniers neveux. Que sous ton ombre hospitalière le vieux guerrier trouve un abri, que le pauvre y trouve un ami, que tout Français y trouve un père. Aux armes, citoyens, etc. Tandis que le savant évêque Grégoire avait, du haut de la tribune conventionnelle, cité comme un crime de régiment de la terreur l'arrestation, sous prétexte d'incivisme, du poète patriote, dont le chant avait donné 100 000 défenseurs de plus à la liberté, et qui était sorti de la prison du château de Saint-Germain-en-Laye, qu'après le supplice de Robespierre, tandis que la harpe rejetant enfin le bonnet rouge sous lequel avait composé et déclamé au lycée le 3 décembre 1792, ses vers plus furibonds encore qu'énergiques. Le fer, ami, le fer, il presse le carnage. Le fer, il boit le sang nourrit la rage et la rage donne la mort. La harpe, qui d'ailleurs fut plus envieux que prophète, annonçait 2 ans après, à la première école normale, que la Marseillaise était une table faible chanson éphémère, tandis que l'obscure souriguière essayait d'opposer au chant des combats son homicide réveil du peuple en 1797. Gara rendait dans la clé du cabinet des souverains un conte brillant et judicieux des essais en vers et en prose de Rouget de Lisle. On remarque dans cet article de bonnes critiques les passages suivants. De Strasbourg, où ce phénomène lyrique avait paru d'abord, il parvint jusqu'à Paris. Il commence à circuler parmi les patriotes. Bientôt, les rues, les places, les spectacles en retentissent. Sur ce théâtre pompeux où tous les arts se disputent le privilège de séduire, tout à coup, un artiste, à voix mâle et sonore, entonne l'hymne des Marseillais. Le chœur répète après lui le refrain belliqueux. Les citoyens transportés se mêlent au chœur. Les applaudissements, les cris de « Vive la République !» éclatent de toutes parts. Il faut, après chaque couplet, attendre que l'ivresse qui l'a excité permettent de commencer celui qui suit. Rappelons-nous quelle douce émotion, au milieu de ces mouvements énergiques, excitent ces 4 vers. Françaises en guerre magnanime, portez ou retenez vos coups, épargnez les tristes victimes, à regret, s'arment contre nous. Rappelons-nous surtout, et pourrions-nous l'oublier jamais, qu'elle fut sur une si nombreuse assemblée, l'effet magique de cette invocation religieuse, lorsque, se précipitant à genoux et ralentissant le son de la musique, le coryphée, le chœur chantèrent « Amour sacré de la patrie, conduis soutien aux braves vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec les défenseurs. » Au parterre, dans les loges, les spectateurs aussi étaient à genoux. De douces larmes coulaient de tous les yeux. Les femmes, et à leur exemple les enfants, levaient les mains au ciel. Tous les cœurs étaient d'accord et semblaient se pénétrer à l'envi de cet amour sacré de la patrie. Pendant l'exécrable règne de la terreur, des scélérats ont profané cet hymne et en ont fait un signal de carnage. Prétexte vain et plutôt perfide. Et quoi ? Lorsque, au nom d'une religion de paix, de misérables fanatiques ont égorgé des millions de leurs frères, ne savaient-ils pas des signes révérés de cette religion même ? N'en avaient-ils pas à la bouche les mots liturgiques et sacramentaux ? Et pour cela, les âmes pieuses ont-elles abjuré ces signes et ces liturgies ? Il suffirait donc au mal de se servir de ce qui est bien, pour ce qui est bien sans ça de l'être. Finissons en présageant à Rouget de Lille que, si jamais la patrie se trouvait dans les mêmes dangers, il verrait son champ reprendre tout son empire, parce que les cœurs reprendraient tout leur enthousiasme. Il a donc eu raison de mettre à ce champ pour épigramme l'exegi monumentum d'Horace. Oui, son hymne est un monument qui honorera sa mémoire et qui vivra dans celle des hommes aussi longtemps que les immortelles époques de la guerre de la liberté. Madame Aimable Tastu, qui fit imprimer dans le journal Le Temps, 29 juillet 1841, un fort bon article sur la Marseillaise, a commis dans sa notice quelques erreurs que nous permettrons de relever respectueusement. Rouget n'avait pas pour surnom de Lille, L-I-2-L-E, mais de Lille, L-I-S-L-E. Les jeunes héros de 92 ne s'appelaient pas conscrits, mais volontaires, parce qu'en effet, ils s'étaient enrôlés volontairement. Il ne fut question de conscrits que dans et depuis la loi du 19 Fructidor en 6, le 5 septembre 1798, rendue sur le rapport du général Jordan, alors député au Conseil des 500 par le département de la Haute-Vienne. L'article 17 de cette loi si importante désigna les jeunes gens appelés au service militaire par le nom de défenseurs conscrits, et ce dernier mot a prévalu. Ce fut en effet par un beau jour d'été, mais non pas sous la Convention nationale, qui se réunit seulement le 21 septembre 92. Que les acteurs de l'opéra chantèrent et firent tant applaudir la Marseillaise devant le restaurant de la Porte Maillot, d'où elle ne tarda pas, sur nos théâtres, à exciter l'enthousiasme général, qui avait déjà commencé, grâce aux Marseillais, un mois auparavant. Après ces remarques, nous allons citer quelques anecdotes fort curieuses rapportées par Madame Tastu. Le lendemain de la bataille de Jemmapes, Rouget de Lille, alors aide de camp du général Vadrance, fut chargé par lui d'un message pour Dumouriez. Sa mission remplie, Dumouriez le retint à dîner. Il accepta et se trouva placé à table à côté du duc de Chartres, depuis Louis-Philippe, qui lui témoigna beaucoup de joie de ce rapprochement. Et comme Rouget de Lille félicitait le jeune prince sur la journée de veille, dont le succès pouvait d'un bon droit lui être en partie attribué. « Oh non !» dit le prince en souriant. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi, c'est à vous que ce succès est dû. » Et voyant l'étonnement et la curiosité se peindre sur le visage de son interlocuteur, « Au moment de l'attaque, ajouta-t-il, je reçois du général l'ordre d'aller m'emparer du bois de Boussu. » On me donna, pour exécuter ce mouvement, un bataillon formé de jeunes gens à Saint-Denis, qui n'avaient pas encore vu le feu. Et il s'avançait au pas cadencé, accéléré, avec autant de courage que d'inexpérience, quand tout à coup une décharge part de bois même que nous allons occuper. Et voilà ces pauvres jeunes gens qui, dans un premier mouvement de surprise, s'effraient, perdent la tête, se défendent et s'abandonnent. Je cours après eux, je parle, je supplie. Tout est inutile. Ils n'écoutent ni mes ordres, ni mes prières. Désolé d'une détection si inattendue, je tente une des dernières ressources. Je lève mon chapeau sur la pointe de mon épée. Et de toute l'étendue de ma voix, je commence à crier, à chanter. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah, ces accès, chers et connus, mes fuyards parisiens tournent la tête et s'arrêtent. Bientôt vous y eussiez vu se rassembler de nouveau, accourir sur mes pas et se remettre en marche en répétant avec enthousiasme le chant sacré. Alors je les rallie, j'en forme une colonne serrée à laquelle je donne le nom de colonne de Jemmap. Je dirige sur le bois qui protégeait les redoutes autrichiennes et nous les entrâmes à Blamaïonnette. On peut juger si le récit du prince fut doux à l'oreille de l'auteur. Dans la réunion de la porte Maillot, dont nous avons parlé plus haut, en plein air, sur une espèce de théâtre improvisé au carrefour des deux allées avec quelques planches et des futailles vides, les acteurs de l'opéra se placèrent. Alors Laïs, avec toute la puissance de son talent, toute l'ampleur et la solennité de sa voix, commença le chant demandé dont le refrain était répété en chœur par ses camarades. Cet air, cette voix, ces paroles, retentissant dans le silence de la nuit, au milieu des bois, à la clarté mystérieuse de la lune, tout concourait à donner à l'émotion générale un caractère religieux. Et à ces mots, amour sacré de la patrie, d'un mouvement unanime et spontané, la foule entière fléchit le genou. Je ne crois pas que Gardel ait fait entrer la Marseillaise dans un divertissement intitulé « Le triomphe de la République ». Mais tous les vers, y compris la ronde du camp de Grandpré, étaient de Chénier, qui l'année suivante composa son immortel chant du départ. Toutefois, l'hymne de Rouget de Lisle fut chanté sur tous les théâtres et partout fut accueilli avec les transports les plus vifs et les plus francs, comme il est aujourd'hui. Nous pouvons avoir remarqué, plus haut, que les différents éditeurs ont répété une faute de versification que Rouget avait réellement commise, qu'il reconnut et corrigea sur ma remarque dans la belle copie autographe, qu'il me donna de cet hymne immortel le plus beau qu'il ait composé, mais non pas le seul de ses ouvrages qui mérite des éloges. En effet, citons et chantons Roland à Roncevaux, dont le refrain touchant « Mourir pour la patrie » fut appliqué à des chansons de 1794 qui n'en étaient pas dignes. N'oublions pas le chant national sur les héros de vengeurs, dans lequel Rouget de Lisle plaça si bien ce refrain patriotique. Rappelons le chant des vengeances contre l'Angleterre qui fut exécuté à l'Opéra le 11 février en 4 et qui commence par ces beaux vers. Aux armes qu'au chant de la paix succède l'hymne des batailles. Aux armes, loin de nos murailles, précipitons nos ranges d'épais. Il parut en 1840 deux réimpressions de la Marseillaise, toutes deux fort belles. Mais celle qui mérite la préférence est l'in-folio, que donnèrent avec un luxe de fort bon goût les éditeurs du journal des pianistes. L'édition de l'aîné, imprimée en in octavo, a l'avantage d'offrir un portrait de venait d'après le beau buste exécuté par David d'Angers et une petite notice que rédigea M. Piat. Les vignettes sont dues au crayon spirituel de Charlot, auquel nous sommes redevables de tant de petits chefs-d'œuvre d'esprit et de malice. Toutefois, nous sommes forcés de le dire. C'est avec peine que nous voyons qu'il a fait de nos premiers volontaires une caricature que, sauf le respect dû à son beau talent, je suis tenté d'appeler une ignoble pochade. Est-ce qu'il est en France un seul homme de l'époque de 1791 et 92 qui ne se rappelle pas ses premiers courageux défenseurs de la liberté qui, du banc des collèges, des études de l'avocat et du notaire, du barreau des tribunaux, des magasins du courageux défenseur, des magasins de commerce, des bureaux des administrations et même des salons de l'opulence, s'élançant sur les places publiques, se formèrent en bataillons de volontaires dans les chefs-lieux de chacun de nos 83 départements. Tous ou presque, tout jeunes, beaux, faisant toujours l'ornement de nos gardes nationales et l'ayant fait aussi du Champ de Mars à la Fédération de 1790. J'avoue, sans pensée aristocratique, que je ne saurais reconnaître dans les figures laides et hagardes, vieilles et barbues que nous a fauchagées, nos contemporains de 1791 et 1792. Jeunes gens bien élevés, bien vêtus et noblement braves, appréciant autrement que par un instinct sauvage les bienfaits de la liberté et de la dignité de la patrie, quittant avec un enthousiasme généreux une vie d'aisance et souvent de luxe, pour s'enrôler spontanément, pour consacrer à la défense du pays leur valeur qui fit des prodiges et leur capacité qui ne tarda guère à en enlever un grand nombre au premier grade de l'armée et à l'admiration du monde entier. Une jolie gravure placée en tête de l'almanach patriotique pour 1793 représente fort bien le départ de ces jeunes héros encore revêtus de leurs habits de ville, élégants et soignés, comme on n'avait pas cessé de l'être, et de le porter en 1792. Je présume que Charlet a été induit en erreur par ces vers de notre illustre Béranger, qui n'a voulu parler que de soldats de nos levées en masse, après le 10 août et surtout en 1793, pieds nus, sans pain, sourds aux larges alarmes. Mais les pieds nus et la disette de pain étaient l'effet de la précipitation et de l'affluence de ces levées, autant que parfois de la cupidité et du mauvais esprit de ces fournisseurs, qui, grâce à leur rapine, étalèrent insolemment sous le directoire et sous l'empire le fruit de leurs brigandages impunis, proscrits sous le consulat, sous l'empire et sous la restauration. Le noble chant reparut avec éclat à la Révolution de juillet 1830. Les vainqueurs des barricades, dit encore Madame Tastu, que nous aimons tant à citer, virent avec acclamation la Marseillaise s'élancer dans leur rang, surpris de trouver si vivante et si jeune la contemporaine de leur père, et ceux de ses pères dont le cœur n'avait point vieilli, revinrent avec émotion à leurs premières amours. Alors, depuis le balcon du prince jusqu'à l'échoppe de l'ouvrier, on la vit railler toutes les voix dans un cœur universel. Ce retour aux premières amours fait allusion à un mot célèbre que rappelle Madame Tastu. « Quand j'ai de l'île, dit cette dame, se rendit aux Tuileries, ou plutôt au Palais Royal, après la Révolution de juillet, pour remercier le lieutenant général du royaume de la pension qui venait de lui être accordée en son nom. « Eh bien, mon vieux camarade, dit le prince affectueusement, vous voyez, l'on revient toujours à ses premières amours. » Il n'est pas exact de dire que l'auteur de la Marseillaise fut un royaliste adversaire de la Révolution. Lui qui, dès 1791, avait composé un hymne à la liberté dont Pleyel fit la musique et qui fut exécutée à Strasbourg lors de l'acceptation de la première de nos constitutions en septembre 1791. Rouget de Lisle était patriote constitutionnel, et comme Lafayette étant de bons Français, comme la plupart même des Girondins, il vit d'abord avec douleur, brisé par les deux parties, le pacte protecteur de 1791, qui semblait alors garantir suffisamment la jouissance de la liberté et dont la destruction pouvait faire redouter l'invasion de l'anarchie, à la suite de laquelle ne tarde guère à s'élever le despotisme avec toute l'insolence et l'opiniâtreté d'oppression qu'on lui connaît. Assurément, lorsque, immédiatement après la juste chute du trône, au mois d'auguste 1792, Carnot destitua ou suspendit le chanteur de la Marseillaise, il ne frappa point l'officier du génie comme ennemi de la liberté, mais seulement comme n'ayant pas approuvé la révolution du 10 août, qui anéantissait la constitution qu'il avait jurée. Arrêté comme soupçonné d'être suspect pendant les saturnales féroces de la terreur, Rouget, échappé aux hécatombes de M. de Robespierre et de M. Fouquet de Tinville, recouvra sa liberté après le 9 Thermidor, quand ses ennemis de l'humanité se rayèrent, se noyèrent dans le sang qu'ils avaient versé, égorgés à leur tour, par leurs complices qui tremblaient pour eux-mêmes. Toujours fidèle à la Révolution et à ses principes, Rouget de Lisle accompagna Tallien l'année suivante dans les départements de l'Ouest et se trouva avec son représentant du peuple à la prise de Quiberon, de laquelle il nous a laissé une excellente relation qui avait autant d'honneur à ses convictions qu'à son esprit et à son humanité. Ainsi que ses chants, le poète fut oublié sous les régimes illibéraux qui suivirent l'attentat funeste du 18 Brumaire, et quand le 29 juillet 1830 opéra vers les principes de 89 un retour dès longtemps aussi inévitable que depuis l'a été celui du 24 février 1848 vers les principes de 1792, le chantre de la Marseillaise, parvenu à l'âge de 70 ans et très vieilli, n'avait plus assez de verve comme poète et comme musicien pour chanter un triomphe glorieux qu'il avait appelé de tous les vœux de son cœur et de son esprit. Il ne pouvait plus que dire le « Nunc dubitis ». Maintenant nous partons du vieillard Siméon et bénir dans la victoire du peuple celle des lois, des institutions libérales et de la liberté pour la défense de laquelle il avait improvisé avec tant de bonheur et de succès le chant des combats. Il mourut à Choisy-le-Roi le 21 juin 1836, âgé de 76 ans, un mois et 17 jours. Que la terre soit légère aux cendres du patriote qui eût applaudi à notre renaissante république. Certes, il aurait pensé, comme tout bon esprit désabusé, que la monarchie désenchantée des rois, tous plus ou moins infidèles à leurs engagements, et dans lesquels il est désormais prouvé que la liberté et l'égalité ne sauraient trouver un appui solide, les lois, un défenseur fidèle, le pacte social, un exécuteur loyal, et la grande famille, un bon père, et même un ami, qui répondant à l'affection qu'on lui témoigne, prête une oreille attentive aux conseils utiles qu'on lui donne. Gara l'avait bien dit, si la patrie se trouvait en danger, on verrait le champ marseillais reprendre tout son empire, parce que tous les cœurs reprendraient tout leur enthousiasme. En effet, à la fin de février dernier, ce noble chant faisait retentir ses accents énergiques dans tout Paris et allait se répéter dans la France entière, courant aux armes et à la conquête de ses droits méconnus. comme en 1792, la Marseillaise se fit entendre sur nos théâtres, et grâce surtout à la voix expressive de notre grande tragédienne, les vers et la musique de Rouget de Lisle charment les oreilles, enflamment les cœurs des fils des vainqueurs de Valmy et de Jemmapes. Les ennemis mêmes de la Révolution ne purent résister au charme entraînant de l'hymne de Marseillais. Jacques Petier, dans son dernier tableau de Paris, parle de l'effet de ce chant inspirateur. Et pour en conserver l'air, il donne une parodie royaliste des strophes patriotiques. Allons, dit-il, allons, amis de la patrie, Français trop longtemps aveuglés, que des suppôts de l'anarchie, les drapeaux sanglants soient brûlés. Nous ne continuerons pas de copier cette parodie dans laquelle les mauvais sentiments ne sont pas rachetés par de bons vers. Un autre parodiste, l'auteur de La trompette du père Duchêne, publia dans le numéro 99 de cette feuille anarchiste une imitation de l'hymne auquel resta attaché le nom des Marseillais. Voici la dernière strophe de cette imitation. Amour sacré de la patrie, tu conduisis nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, triomphe avec les défenseurs. Sous nos étendards, la victoire accourt à tes mâles accents, et nos ennemis expirants ont vu leur honte et notre gloire. Victoire, citoyens, gloire à nos bataillons, chantons, dansons, qu'un doux nectar arrose nos poumons. Il est une autre parodie du noble chant de Rouget qui eut quelque succès. Oh, ce n'est pas une œuvre grave, c'est un matinage gastronomique. Il commence ainsi, voyant, allons enfants de la Courtille, le jour de gloire est arrivé. C'est pour vous que le boudin grille et que le bon vin est tiré. Entendez-vous dans la cuisine rôtir dindons et gigots? Ma foi, nous serions bien égaux si nous leur faisions triste mine. À table, citoyens, vidons tous les flacons, buvons, buvons, et qu'un vin pur abreuve nos poumons.